Prier certainement encore après, de partager ensemble sur l'importance d'une vie simple, d'une foi simple. La simplicité, ça peut avoir un côté positif ou un côté négatif. On peut être simpliste, voilà. Mais on peut être aussi compliqué. Et il y a une bonne simplicité. D'ailleurs, vous ne trouvez pas qu'aujourd'hui, il y a cette expression consacrée, c'est compliqué. Ça fait quelques années qu'on entend beaucoup répéter cette expression, c'est compliqué. Je me souviens, il y a quelques années, on n'en parlait pas autant. C'est comme à un moment donné, quand il y a eu la crise en 2008 financière, vous vous souvenez, ce mot, on l'entendait constamment. Alors, si vous écoutiez régulièrement France Info au volant de votre voiture, vous entendiez plusieurs fois par jour ce mot, crise, crise, crise. À la fin, ça met les gens en crise quand même. Il y a comme cela des vocabulaires qui évoluent et qui sont liés aux circonstances, et si on ne fait pas attention, on est pris par ça. Et aujourd'hui, cette expression « c'est compliqué », ça revient souvent. Alors, c'est compliqué de savoir aujourd'hui. Parce qu'on est... Alors, on pensait qu'Internet allait favoriser l'information, et on se rend compte qu'avec la multiplicité des infos, trop d'infos tue l'info. Et on est plutôt dans le siècle de la désinformation. C'est compliqué de savoir la vérité. On est obligé de faire, même maintenant, à la télé, à la radio, des émissions ou des flashs sur les fake news. Pour essayer de faire le tri. Alors évidemment, on va toujours dire, ouais, mais eux, ils disent que c'est ça, mais c'est peut-être pas vraiment ça. On s'en sort plus. C'est compliqué. C'est compliqué parfois au travail. Les relations. Vous êtes peut-être au boulot en difficulté, avec des coups bas, de l'hypocrisie, des mensonges. Parfois, c'est compliqué dans la famille, même de se réunir pour une fête. Il y a eu des histoires, il y a eu des ruptures, des fractures. Il y a eu des mots dommageables. Il arrive même parfois, et alors là, c'est, à mon avis, c'est le pire qui puisse nous arriver, c'est quand c'est compliqué dans l'Église. Parce que normalement, l'Église, c'est le havre de paix. C'est là où on se réconforte, c'est là où, quand tout est compliqué, on est consolé. Le Seigneur nous fait du bien. Mais ça arrive parfois que ce soit compliqué dans l'Église. Je me souviens quand, dans des circonstances, j'ai dû me retrouver un petit peu isolé, ça a été le pire moment de ma vie. Parce que parfois on confond les choses et... on s'appuie beaucoup parfois sur des institutions, et quand celles-ci vacillent, alors on ne sait plus où on en est. C'est compliqué dans notre pauvre monde, vous ne trouvez pas? On a eu le Covid, enfin on l'a encore un peu. On a le Covid. Quand le Covid, on commençait à se dire « Ah, ça va mieux ». On a l'Ukraine. Alors, l'Ukraine, c'est loin, ouais, on est impacté beaucoup. Et même cette guerre à nos portes. Et je ne vais pas vous rassurer, ça va continuer à être compliqué dans le monde. Le Seigneur l'a dit, vous entendrez parler de guerre, de bruit, que ne soyez pas troublés. Vous pouvez même peut-être vivre votre vie chrétienne d'une façon compliquée. Dire, Seigneur, je ne sais plus trop où j'en suis. Seigneur, tu as dit qu'on serait vainqueur, et moi actuellement, je suis plutôt vaincu par le péché. Alors, au fond, le risque dans toute cette ambiance, c'est de devenir soi-même compliqué. Il faut rester simple. Amen. Alors, vous dire, mais c'est pas simple. De rester simple quand c'est compliqué. Alors revenons à la simplicité de la parole de Dieu. Vous savez, je crois que nous avons vraiment besoin de relire la parole de Dieu, simplement, et de trouver la paix, la consolation des Écritures. Amen. C'est cela qui va nous permettre peut-être de nous calmer dans notre tourbillon. Lisons dans Actes chapitre 2, verset 46, s'il vous plaît. Actes chapitre 2, verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. La simplicité des premiers chrétiens. Amen. N'avons-nous pas besoin de revenir à la foi des premiers chrétiens? Rapidement, j'en profite, puisque le texte en parle. Une vie chrétienne, sans Église, ça n'existe pas. Je sais que c'est dans l'ère du postmodernisme de favoriser le relativisme et l'indépendance, mais ça, c'est l'esprit du monde. Ils étaient chaque jour tout seuls. Ah, il y en a un qui suit. Ils étaient chaque jour tous ensemble. Amen. Une vie chrétienne sans Église, cela n'existe pas. Alors si l'on continue dans ce beau passage, eh bien il est dit qu'ils rompaient les pains dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Rompre le pain dans les maisons, vous savez que la scène se pratiquait différemment dans la première église, elle se pratiquait lors de ce que l'on appelle les agapes. Les gens mangeaient ensemble, ils rompaient le pain et prenaient la scène. Et ils le faisaient avec joie et simplicité de cœur. Amen. Oui. J'ai connu une assemblée d'origine polonaise et il y avait un phénomène où, quand il y avait un temps de louange, il y avait beaucoup de joie, d'expression. Et subitement, quand on venait à la Sainte Cène, il y avait un silence solennel, grave, peut-être même religieux. Parce que la scène était comme sacralisée. En réalité, la scène était prise avec simplicité, avec joie, avec louange. Ils rompaient le pain et louaient Dieu de tout leur cœur. Alléluia. Et là est tout l'équilibre, bien-aimé, entre l'importance du culte, mais aussi sa simplicité. Amen. Il faut que nous célébrions le Seigneur avec la crainte de Dieu, mais tout autant avec la joie et la simplicité. N'est-il pas écrit « Servez l'Éternel avec joie et avec crainte ». Amen. Et nous avons bien besoin d'éviter une trop grande solennité qui peut-être empêcherait la sincérité, la simplicité, la spontanéité du cœur. Amen. Et il nous faut retrouver ce côté, alors j'espère que vous me comprendrez bien, familial du culte. Je crois que c'est le culte des enfants de Dieu. Ce sont des frères et des sœurs qui se rassemblent et ils rompaient le pain comme un repas familial. La scène est aussi un repas familial. Amen. Un repas où la famille de Dieu se réunit et bénit loue le frère aîné, Jésus-Christ, et le Père céleste. Amen. D'ailleurs, la famille est une des images données pour l'Église dans le Nouveau Testament. Et des fois, ce qui est curieux, c'est que dans des camps familles, on a eu un camp famille. Dans des camps familles, les moments de prière, de louange sont fluides. Et parfois, dans l'Église officielle, il y a un peu moins de cette fluidité. Comment ça se fait? Il y a une Église officielle institutionnalisée? Non. Là où deux ou trois sont assemblés en son nom, Jésus est au milieu d'eux. Amen. Et nous avons besoin de venir dans la maison de Dieu avec simplicité. De louer le Seigneur avec simplicité. Peut-être vous n'avez pas la capacité d'avoir une grande prière théologique. Ben, tant mieux. On évitera ainsi le formalisme. Mais louez le Seigneur avec vos mots. Amen. Et je crois que même si on n'est pas baptisé d'eau, si vous êtes réconcilié avec le Seigneur, si vous avez donné votre vie, louez le Seigneur. Amen. Très rapidement. J'ai même connu, c'est l'assemblée de Viens ma femme. Ma femme vient de Cambrai. Vous savez quelle est la spécialité de Cambrai? Ah ben voilà, vous savez. J'ai été chercher ma bêtise là-bas. Et dans cette assemblée, j'étais étonné. Il y avait un moment, c'était un peu cette caractéristique. Chaque assemblée a des caractéristiques. À un moment donné, dans le culte, on entendait les enfants prier. C'était beau. Et c'était pas forcé, hein. Faut pas forcer les enfants, hein, surtout pas. Mais certains enfants le faisaient. Ben, vous vous rappelez quand les enfants sont venus vers Jésus, hein? Ben, c'est des fois les enfants ils louent le Seigneur spontanément, simplement. Gloire à Dieu. Et je crois qu'il nous faut revenir à cela. Ce mot-là en grec, qui est dans ce passage, est un apaxondi. Alors je fais exprès des fois de dire des choses pour, dans vos lectures, vous compreniez. C'est un mot qui veut dire que c'est utilisé une seule fois dans le Nouveau Testament. Une seule fois. Et il veut dire simplicité, unicité, souplesse. Un cœur simple, c'est un cœur un. Unicité. Un cœur simple, c'est un cœur un. Je le fais exprès, je pose un jalon, j'y reviendrai dans quelques instants. Et puis souplesse. Souplesse au lieu de dureté. Amen. Souplesse de cœur. Il ne faut pas être figé dans son cœur. Pas être dur dans son cœur. Alors je sais bien qu'il faut faire attention à la tolérance mondaine et de tolérer tout dans l'Église. Bien sûr que non. Mais avec fidélité, avoir un cœur souple. Souple dans la présence de Dieu. Souple pour laisser le Saint-Esprit nous visiter, nous conduire, nous diriger. Mais peut-être aussi un cœur souple, parce que c'est plus le contexte, les uns avec les autres. Ils mangeaient ensemble, ils étaient heureux, ils louaient Dieu, et ils étaient souples entre eux, ils étaient simples entre eux. Alléluia! Soyons pas trop compliqués entre nous. Amen. Soyons souples. Bon, des fois on peut avoir des maladresses, c'est sûr. Mais écoutez, dans la vie, les erreurs, une vie sans erreur, ça n'existe pas. Être souple. Voilà donc pour les premiers chrétiens, lorsqu'ils se rassemblaient et que le Seigneur fasse que nous ayons à nouveau une simplicité de cœur dans nos rassemblements. Amen. Dans nos réunions et même quand nous nous rencontrons. Alors, ici, c'est dans les maisons. Pourquoi aussi? Parce que le culte, la première église était immense. Elle était organisée en église mère, au temple, et en différentes églises de maison. Mais ce n'est pas le sujet. Et je sais très bien que ce n'est pas forcément des choses à copier, qu'il y a eu beaucoup d'erreurs dans ce domaine-là, mais qu'il y a eu aussi des bonnes choses. Mais ce n'est pas mon sujet. Alors, on continue, Colossiens chapitre 3, verset 22. Colossiens 3, 22. Voilà ce qui est dit, Colossiens 3, 22. serviteur, ou esclave en fait, hein, serviteur, révoltez-vous parce que ce n'est pas normal. Non. Serviteur, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, ne le faites pas pour votre patron. Faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Amen. Voilà, c'est simple. C'est un rappel à la simplicité. C'est au lieu de t'embrouiller avec tes chefs, au lieu de t'embrouiller avec ton patron, au lieu de te compliquer le cœur en disant « mais c'est pas juste, et c'est pas normal » et partir dans des conflits, ben c'est tout simple. Obéir. Esclaves, obéissez. Mais obéissez, vous cassez pas la tête. Obéissez parce que, vous savez, au travail, c'est pas le patron que vous servez, c'est le Seigneur que vous servez. On a besoin de revenir à ça. Vous vous rappelez quand vous vous êtes converti, tout ce que vous faisiez, vous aviez du zèle. Est-ce que vous le faisiez pour le Seigneur que vous veniez de découvrir? Il faut peut-être redécouvrir le Seigneur. Amen. Pour vivre pour lui. Vous savez que on est tous à plein temps dans le service de Dieu. Ah, j'ai pas l'impression que vous êtes d'accord avec moi. On est tous serviteurs et servantes. Et notre boulot, c'est un moyen de servir Dieu. Amen. On ne sert pas Dieu que dans l'Église. Et c'est quoi l'Église? C'est ici? C'est un bâtiment? Ben non. L'Église, c'est le rassemblement des croyants. L'Église, c'est les croyants aussi quand ils sont en dehors de leur rassemblement, dispersés dans le monde. Et nous sommes tous au service du Seigneur. Alors je voudrais vous demander, quelle est la première motivation de votre travail? Il est intéressant. Ça me plaît. Une autre motivation? Pesetas. Je suis bien payé. D'ailleurs, j'ai changé de boulot pour avoir plus d'argent. Et je changerai encore pour en avoir encore plus. Bon, ok. Je vous propose d'avoir comme première motivation à votre travail de servir le Seigneur. Amen. C'est beaucoup plus simple. Gloire à Dieu. Vous savez, un pasteur aussi, pourquoi il travaille? Pour avoir une grosse église? Pour que ça marche? Avant tout, le pasteur doit travailler pour le Seigneur, pour la gloire de Dieu. Et de toute façon, ce texte, vous l'avez vu, hein, on l'a lu ensemble, pas celui-là, mais le premier. C'est le Seigneur qui ajoute les âmes à l'Église. Amen. Nous, on fait tous notre petit travail, moi compris. Et c'est le Seigneur qui agit, c'est le Seigneur qui fait, c'est le Seigneur qui est glorifié au milieu de nous. Amen. Aucun homme ne mérite la gloire. Aucun. Alors, voilà, il dit, après, avec simplicité de cœur, non pour plaire aux hommes. Ah, je me souviens au boulot, et il y avait les spécialistes. On devait faire leur boulot. Mais quand le chef arrivait, et je ne sais pas comment ils avaient un radar, parce que même s'il était caché, même s'il arrivait en surprise, ils le sentaient. Et là, subitement, animé d'un nouveau zèle, il ne savait pas que faire pour prouver qu'ils étaient un élément indispensable. Mais le Seigneur voit tout cela. Et alors, en tant que chrétien, on peut se dire, bah, c'est pas juste, il est bien vu, et il fiche rien. Et vous, des fois, qui travaillez, à un moment donné, hop, vous vous asseyez, et c'est là que le chef, il passe. Et là, il va vous faire une remarque. Et l'autre, on lui a jamais rien dit. C'est là où on voit pour qui on travaille. Est-ce qu'on travaille pour le Seigneur ou pour plaire aux hommes? Vous savez que Louis XIV avait une cour. Enfin, tous les rois. Mais Louis XIV particulièrement. Le roi soleil. Triste soleil que celui qui a mis à feu et à sang l'Europe et qui a tué tant de chrétiens et mis l'Église à genoux en France. Enfin, ça, c'est un regard chrétien sur l'histoire. Nous aimons tous avoir une cour. Nous aimons tous être appréciés. Mais dans le travail, apprenons à servir le Seigneur. Amen. Et bien vu, pas bien vu, si on est bien vu du Seigneur, on est heureux. Amen. Oui, vous. Ce qu'on dit, on est d'accord avec la théorie, hein. Voilà. Mais le Seigneur peut nous permettre de le vivre. Parce que vous savez, après, ça va devenir compliqué pour vous, frères et sœurs. Si vous ne servez plus le Seigneur au travail, votre travail, ça va devenir compliqué. Ça va vous prendre la tête, ça va vous poursuivre à la maison. Et quand on sert le Seigneur, ça va peut-être nous aider que quand on a fini le boulot, on a fini le boulot. Le Seigneur, il s'occupe du reste. Parce que travailler pour le Seigneur, c'est aussi prier pour son travail. Prier pour avoir des clients, si vous avez besoin de clients. C'est pas un mal, hein? Priez pour qu'il vous aide si on vous a demandé quelque chose dont vous ne vous sentez pas très capable d'arriver à faire. Ben, travaillez pour le Seigneur et même avec le Seigneur. Alléluia. Et là, ça sera beaucoup plus simple. C'est toujours plus simple quand on vit avec le Seigneur. Dans ce passage, simplicité, ce n'est pas donc le même mot que dans Acte 2. C'est un autre mot du Nouveau Testament qui veut dire unicité, sans prétention, ni hypocrisie. Je crois que simplicité, ça rime avec humilité. Quand on est simple, on n'a pas de prétention. Amen. Soyons simples dans la vie. Simple. Et unicité. Alors, les deux mots du Nouveau Testament qui sont traduits par simplicité veulent dire tous les deux unicité également. Un cœur simple, c'est un cœur un. Alors, pourquoi je vous l'ai dit? Parce que je crois que c'est compliqué quand on fait deux choses en même temps. Pour que ce soit simple, il faut que ce soit un cœur un, pas un cœur deux, pas un cœur double, pas un cœur partagé. Mais un cœur un, c'est un cœur uni. C'est un cœur pour le Seigneur. Alléluia. Quand David servait Dieu de tout son cœur, il avait un cœur un, un cœur simple. Sa vie, c'était simple, c'était Dieu. Alléluia. Un cœur un. Et pourquoi des fois c'est compliqué dans notre vie? Parce qu'on n'a pas un cœur un, on a un cœur deux, un cœur trois, un cœur quatre. Mais que Dieu nous donne un cœur un. Et alors, bien des choses seront différentes. Que notre cœur soit uni en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Un cœur un. D'ailleurs, Paul dit, y ait une même pensée. Bon, une même pensée. Lisons dans Matthieu, chapitre 10, verset 14. Matthieu, chapitre 10, verset 14. J'aime bien entendre les pages de la Bible tourner. Ça a toujours été quelque chose que j'aime bien dans l'Église, entendre les pages de la parole de Dieu et que des fidèles, des croyants y plongent leur regard. Matthieu chapitre 10, verset 14. « Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. » Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorre sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Amen. Le contexte, c'est la persécution, c'est l'opposition à l'Évangile. Donc ne vous découragez pas si vous n'avez jamais ramené une âme au Seigneur depuis que vous êtes chrétien. Parfois on met une pression et un joug que la Bible n'a jamais mis. Porter du fruit en tant que chrétien, c'est pas ramener des âmes au Seigneur. Porter du fruit, c'est vivre dans l'amour, dans la joie. C'est, voilà. Hein, vous n'avez pas obligation de résultat. Comprenez ce que je veux dire? Je crois que le Seigneur va faire grâce, il utilisera parfois des bien-aimés. À Dunkerque, il y a eu une sœur qui a ramené des dizaines et des dizaines d'âmes au Seigneur. Et vous saviez comment elle faisait? Elle allait chez ses voisins, faire un peu de repassage, garder des enfants, mais elle parlait du Seigneur autour d'elle, rendait service. Et l'assemblée de Dunkerque, je crois que c'était Saint-Paul ou Coudekerque à l'époque, enfin c'est les villes qui touchent Dunkerque, c'est rempli en particulier par cette sœur qui est toujours restée très humble dans les rangs, sans rien revendiquer. Ben, Dieu soit béni. Le Seigneur lui a donné cette grâce. Mais il y a des chrétiens qui jamais de leur vie ne ramèneront une âme au Seigneur. Je vais dire, frère, ça, il ne faut pas le dire. Il ne faut pas le dire. Ça va décourager tout le monde. Ça ne va pas favoriser la foi. La foi, c'est, ça ne nous empêche pas de dire la vérité. Et est-ce que c'est une anomalie? Maintenant, enlève ce fardeau de tes épaules, mon frère, ma sœur. Il n'y a rien d'anormal à tout cela. Le Seigneur rajoute les âmes à l'Église par qui il veut, comme il veut, de la façon dont il veut. Amen. Non. Alors, ici, pourquoi je dis cela? Parce que ce texte dit, lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles. Donc, il y a bien des moments où ça ne marchera pas. Ce n'est pas l'Évangile qui ne marche pas. Hein. L'Évangile, c'est toujours la puissance de Dieu. Alléluia. Mais même Jésus, dans sa propre patrie, n'a pas pu faire beaucoup de miracles. Enfin, nous, on aimerait bien ne pas savoir faire beaucoup de miracles, mais enfin, il a quand même été limité dans sa localité. Voilà. L'Évangile est puissant, mais Dieu ne forcera jamais personne, on le sait bien. Alors il dit, je vous envoie au milieu des loups. Soyez prudents comme des serpents. Le Seigneur utilise une image qu'on n'aurait pas osé utiliser. Soyez prudents comme des serpents. Donc il y a un côté serpent dans la vie chrétienne, excusez-moi. Un côté prudent. Soyez prudents comme les serpents. Ah oui, parce que la vie du chrétien dans le monde, ça va pas être simple. On va avoir de l'opposition, des persécutions, des coups bas. Vous allez être parfois combattu à cause de votre foi, c'est sûr. Le Seigneur ne nous a pas promis une vie facile et qui sera toujours réjouissante. Mais il ajoute, simple comme des colombes. Amen. Pas que prudent, mais être simple aussi. Parce que si on n'est que prudent, on va devenir méfiant, pessimiste, dur, fermé. Et ça n'ira pas. Souvent, ce que le Dieu nous demande, c'est de vivre la chose et son contraire. Dieu est comme cela lui-même. Des fois, vous lisez la parole de Dieu, vous avez des textes sévères, très sévères. Dieu est sévère. Et d'autres fois, vous lisez d'autres textes de la parole de Dieu où Dieu est très, très bon. Parce que Dieu seul est bon. Amen. Mais Dieu n'est pas que bon, Dieu n'est pas que sévère. Et bien souvent, dans la vie chrétienne, il faut avoir une qualité et son contraire. Ici, il faut être serpent et colombe. C'est quand même pas deux animaux que l'on aurait joints. Il faut être prudent et simple. Donc tout cela pour dire que c'est peut-être ce qui nous permet de différencier la mauvaise naïveté de la bonne. La mauvaise simplicité, c'est la naïveté. La mauvaise simplicité, c'est de ne pas être prudent, c'est d'être simpliste. Par contre, la bonne simplicité, c'est de ne pas se laisser enfermer par la prudence et devenir compliqué. C'est bien que l'on soit conscient de bien des difficultés, nous décidions de rester simples. Je crois que c'est une décision aussi. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais quand on se convertit, tout est simple. Puis après, ça devient compliqué. Parce qu'on se dit, ah, mais ça, je n'avais pas compris. Ah, puis ça, je ne pensais pas. Ah, puis, je pensais que l'Église était parfaite. Ah, au fur et à mesure de la vie chrétienne, des choses nouvelles viennent, des nouvelles données, qui fait qu'après on doit gérer toutes ces nouvelles données. Et des fois on se dit, waouh, mais je sais plus où j'en suis. Et des fois on devient compliqué, même par rapport à l'Écriture. Des fois, par exemple, on lit que des malades sont guéris par le Seigneur Jésus dans l'Évangile. Alors on dit, c'est simple, le Seigneur guérit, alléluia. Puis après on constate qu'il y a des chrétiens qui ne sont pas guéris. Et puis il y a des textes qui nous montrent qu'il y a des gens qui ne sont pas guéris. Après on se dit, mais alors c'est quoi? C'est l'un ou l'autre? Ben, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Amen. Mais il faut du temps pour redevenir simple avec profondeur. Alors je dirais qu'au début, on est simple un peu naïvement. Après, on est compliqué. Et quand on est mature, on redevient simple avec profondeur. Et j'ai même l'impression que ce n'est pas un schéma unique pour la vie chrétienne. Je crois que c'est cyclique. Que régulièrement dans nos vies, les choses sont simples, mais d'une façon naïve. Dieu nous travaille, ça devient plus trouble, mais ensuite, Dieu nous affermit, et dans une certaine maturité, on sait recoller tous les morceaux et comprendre mieux ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. Amen. Donc au final, être simple, c'est une question de maturité. Et si vous êtes toujours compliqué, et que vous savez plus trop où vous en êtes sur ce qu'il faut croire, c'est un manque de maturité. Même si vous avez 50 ans, 60 ans, 70 ans, parce que le Seigneur, il nous travaille toujours. Alléluia. Et on est toujours en progrès. Dieu est infini. On aura toujours de quoi apprendre jusqu'à notre dernier souffle. Et Dieu nous troublera toujours, excusez-moi. Il saura toujours nous troubler. Job n'a-t-il pas été troublé? Et pourtant, c'était le plus éminent des fils de l'Orient. S'il y avait un homme solide, un homme mature dans la foi, c'était lui. Mais le plus solide, le plus mature, Dieu peut le troubler en lui apprenant quelque chose de nouveau. Et c'est à la fin que Job a dit, maintenant, j'ai compris, mon œil te voit, ça, tout redevient simple. C'était compliqué dans son épreuve. Mais à la fin, tout s'est éclairci et est redevenu simple. Ne te décourage pas, je pense vraiment que le Seigneur va faire cette œuvre dans ta vie. C'est compliqué actuellement, mais ça va redevenir simple, parce que tu comprendras ce que tu n'avais jamais compris. Alléluia. Dieu soit béni. J'ai quelques conseils avec le Nouveau Testament à donner pour avoir cette vie simple. On lit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 11. 1 Thessaloniciens. Chapitre 4, verset 11. 1 Thessaloniciens 4, 11. À mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires, et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement, c'est plutôt avec honneur et dignité, envers ceux du dehors, et que vous n'ayez besoin de personne. Amen. Alors attention, hein. Vous voyez comment... Alors, c'est Monsieur Hébert, j'aimais bien, enfin, à Bordeaux, quand j'y étais, il citait souvent, « Tirer un texte de son contexte, c'est en faire un prétexte. » Voilà. Il a le sens de la formule, le frère, parfois. Donc, si on lit et que vous n'ayez besoin de personne, alors on va dire, un chrétien, il doit être indépendant, il doit avoir besoin de personne. Non, mais là, c'est tirer un texte de son contexte pour en faire un prétexte. Dans le contexte, n'avoir besoin de personne financièrement. Mais on a tous besoin les uns des autres. Amen. Hein, le contexte, c'est que vous n'ayez besoin de personne financièrement. Bosser pour avoir un salaire, pour rien réclamer aux autres d'argent. Nous avons connu parfois dans des assemblées des gens qui, par paresse, ne pourvoyaient pas leurs propres besoins et demandaient de l'argent à des chrétiens dans l'église. Eh bien ça, non. Ça, non. Et le chrétien doit vivre dans l'honneur et la dignité de pourvoir à ses besoins par son propre travail. Amen. Mais ça, bon, on sort de notre thème. Ici, la Bible nous dit que nous devons nous mettre notre honneur à vivre tranquille et à nous occuper de nos propres affaires. Vous savez, c'est plus simple quand on ne se mêle pas de la vie des autres. Une vie simple, c'est une vie où déjà on commence à balayer devant sa porte. Il y a des choses qui ne vous regardent pas. La vie des gens, ce qui se passe dans leur famille, même des frères et sœurs, il y a des choses qui ne vous regardent pas. Et vous savez ce qui se passe ? C'est que quand on est occupé à juger les autres, à se mêler des affaires des autres, ben comme ça, nous, on est tranquille. On ne s'occupe pas de nos problèmes. On ne laisse pas Dieu s'occuper de nos problèmes. Et même, je dirais, un conseil peut-être pratique avec le couple de vos enfants. Vous avez peut-être des enfants grands, âgés, qui sont en couple. C'est leur couple. Ou un gamin ou une gamine qui a pris son envol, qui est célibataire. Moi, j'ai les deux dans mes enfants. J'ai les deux sortes. Et j'en ai un qui reste chez moi aussi. Je suis content qu'il soit chez moi. Mais je suis content aussi que mes enfants aient fait leur vie. Eh bien, c'est leur vie, justement. C'est leur vie. Amen. Alors, on va les aider. On va devoir, des fois, se mêler quand ils auront besoin. Mais doucement. C'est leur vie. Et parfois, notre vie, elle peut devenir compliquée parce qu'on porte des fardeaux que le Seigneur ne veut pas que nous portions. Il faut porter que les fardeaux du Seigneur. Mais nos enfants font leur vie. Il ne faut pas se détruire avec ce qu'ils font et vous renseigner. Mais il va où? Qu'est-ce qu'il fait? Et y aller chaque fois de vos conseils, de vos réprimandes. Laissez le petit oiseau sortir de son nid. Si jamais il battra jamais des ailes, mais il va se scracher. Dans un documentaire, une fois, j'étais surpris la façon dont un aigle faisait. Le petit oiseau, il sortait, il était tout frêle et tout. Et hop! Sorti du nid. Et les premières fois que l'oisillon sortait, on voyait, oh, il y avait du mal. Des fois, paf, il tombait même. Mais c'est comme cela qu'il a pu se muscler et puis apprendre à voler. Amen. Alors, est-ce que c'est vraiment le bien de nos enfants que nous recherchons, ou est-ce que c'est pas plutôt nous qui prenons trop de place? Occupons-nous de nos affaires. Amen. Occupons-nous de nos affaires. Alors, dans le cas de notre famille, mais même au niveau du travail, vous savez, vous n'êtes pas délégué syndical, enfin, vous l'êtes peut-être, je ne sais pas. Oui, mais je veux dire, si vous commencez à écouter vos collègues, ils vont tous venir vous voir, vous savez. Ah, vous serez fiers que les gens viennent vous raconter tout. Mais est-ce que c'est votre place? Est-ce que c'est notre place de recueillir les doléances de tout le monde? Et de nous mêler de choses dont nous n'avons pas les tenants et les aboutissants? Ah, c'est vrai que ça nous flatte de se mêler des affaires des autres. Mais c'est pas humble, c'est pas simple. Et après, vous allez vous plaindre et vous allez dire, mais je sais pas pourquoi, les gens, ils viennent toujours me voir. Tu sais pas pourquoi? Peut-être que ce matin, tu vas commencer à comprendre pourquoi. Et voilà. Il faut aider les gens, bien sûr. Il y a ceux qui sont indifférents et qui ne s'occupent jamais des autres. S'occuper des autres, c'est bien. Se mêler des affaires des autres, c'est mal. La frontière, elle est pas toujours évidente. Mais que tu t'occupes des autres, ça c'est bien, le Seigneur l'approuve. Par contre, que tu te mêles des affaires des autres, ça non. Apprenons à sanctifier ce que nous faisons. Amen. Alors, à ce propos, Proverbe 25, verset 17 peut-être. Allez, Proverbe 25, 17, vous voulez bien le lire avec moi? Il est dit, Proverbe 25, 17, « Mets rarement le pied dans la maison de ton prochain, de peur qu'il ne soit rassasié de toi et qu'il ne te haïsse. Amen. Bon, haïr, c'est un hébraïsme. Ça veut dire qu'il soit gavé, tout simplement. Hein? Oui, c'est un bon conseil. Il nous faut vraiment avoir des relations les uns avec les autres, mais évitons l'exagération. Si vous allez trop souvent chez quelqu'un, ça risque de finir mal. Alors, soyons sages dans nos relations. Favorisons aussi la réunion des croyants. Amen. Si vous avez du favoritisme et que vous allez toujours au même endroit, pensez qu'il y en a d'autres dans l'Église qui aimeraient peut-être que vous alliez les visiter. Et toujours être avec les mêmes, je ne crois pas que ce soit un amour spirituel. Il faut que notre cœur s'élargisse. Amen. Alors, lisons le psaume 131 pour passer à un autre conseil. Psaume 131, conseil de la parole de Dieu. Ce qu'il y a de bien avec la parole de Dieu, c'est qu'il y a des lois, mais il y a aussi des conseils. Il y a toutes sortes de trésors. Psaume 31, verset 1er. Cantique des degrés de David. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, Église, mets ton espoir en l'Éternel. Dès maintenant et à jamais. Amen. Voyez, David, sa politique personnelle, sa façon de vivre, sa décision, restait simple. Et c'est ça que David a été beaucoup aimé. Ah, vous savez ce que veut dire David ? Vous savez que c'est mon prénom. Hein. Ça veut dire bien aimé. Sous-entendu de l'Éternel. Alors pour la petite histoire, quand je venais de me convertir, j'ai voulu savoir ce que voulait dire mon nom. Et quand j'ai su ça, ça m'a touché. Ma mère, elle n'est pas au Seigneur, je me suis dit, Seigneur, c'est toi qui m'as appelé David, parce que tu m'aimais. Alléluia. Et ici, pourquoi David l'a souvent été aimé ? C'est parce que David, il était roi, mais toujours simple, accessible. Et il dit, je ne me suis pas occupé de choses trop compliquées, trop grandes, trop élevées pour moi, loin de là. C'est ta présence que j'ai choyée, que je choie, comme un enfant près de sa mère, sevré. Dans ma vie, Seigneur, c'est de toi dont j'ai besoin. Pas de faire de grandes choses, c'est trop compliqué pour moi. Le roi qui a fait le plus de grandes choses, Salomon, vous avez vu ce que ça a donné ? David, il chérissait la présence de Dieu plus que tout. Frères et sœurs, attention aux grands projets. Attention de ne pas nous embarquer et d'embarquer notre famille dans des choses compliquées. Rien ne vaut qu'une vie simple, vécue près du Seigneur. Amen. Bon, vivre simplement et pas être près du Seigneur, ça va être insatisfait, on voudra plus. Mais si on vit simplement et qu'on connaît la présence de Dieu, ça sera largement suffisant. Amen. Faut-il accepter, c'est pas toujours facile, il y a des choix difficiles à faire. Accepter des déplacements et à n'en plus finir et ne plus jamais être à la maison. Seigneur, dans chacun de nous, dans ma vie, Seigneur, permets-moi d'avoir ta sagesse. Pour ne pas être piégé par des décisions qui vont entraîner une vie compliquée. Mais je voudrais être simple dans ma façon de vivre. Amen. Favoriser la paix. Plutôt que de gravir peut-être des échelons. Mais à quel prix ? À quel prix ? Oui, David était un roi quand même. Alors, je ne sais pas quand il a écrit ce psaume, mais en tout cas, il est devenu un roi, ou il était un roi quand il a écrit ce psaume. Bon, un roi, je crois que ça a beaucoup de choses à faire. Hein. Vous vous rappelez de Daniel? Il y en avait du boulot. Il en avait un. Mais trois fois par jour, la Bible dit qu'il s'agenouillait et qu'il priait. Alléluia. Là, je ne sais pas comment il a fait. Mais à mon avis, il a dû simplifier beaucoup de choses. Il a dû déléguer, il a dû simplifier pour pouvoir avoir sa vie avec le Seigneur. Je ne veux pas culpabiliser ou faire du mal à quelqu'un. Peut-être que quelqu'un aujourd'hui est dans une vie compliquée. Il y a de plus en plus de chrétiens qui sont dans une vie compliquée. Et vous savez, ce sujet, la simplicité, on pourrait se dire, bof, pas terrible. Mais en fait, c'est quand même vraiment important parce que je crois que le diable, il essaye de compliquer nos vies. Vous savez, la tactique du diable en Égypte, c'est fainéant. Ben, ils feront le même boulot sans la paille. La tactique du diable, c'est de nous rendre la vie tellement compliquée qu'on ne peut plus servir Dieu. C'est pour ça que Moïse a été envoyé. Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Et l'Église d'aujourd'hui a besoin d'être délivrée par Jésus-Christ afin qu'elle serve Dieu. Amen. Et alors, je ne veux vraiment pas vous faire du mal. Si vous, aujourd'hui, vous êtes dans une vie compliquée, ces choses sont dites pour que vous les réalisiez et que vous demandiez au Seigneur des solutions. Vous ne pourrez pas changer du jour au lendemain votre vie, mais le Seigneur est avec vous. Et tous nos mauvais choix, des fois, je crois vraiment qu'on peut compter sur son pardon. Et on peut compter sur lui aussi pour que, petit à petit, notre ciel s'éclaircisse. Amen. D'une façon générale, bien-aimé, sachez-le, quand parfois il m'arrivera de dénoncer des choses, ça ne sera jamais pour vous condamner, mais ça sera toujours pour essayer de nous donner des solutions pour vivre la volonté de Dieu, parce que la volonté de Dieu, ça nous donnera le bonheur. Alléluia. Elle n'est pas mauvaise, sa volonté. Bon, on va passer, j'avais prévu d'autres choses, mais je ne veux pas être trop long. On va dans ce cas-là, Ésaïe, chapitre 53, versets 1 à 3. Ésaïe, chapitre 53, versets 1 à 3. Ésaïe 53, verset 1er. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Amen. Je voudrais terminer sur la simplicité de l'Évangile, et notamment la simplicité de notre Sauveur. Amen. Jésus a vécu simplement. Il était si simple que cela a permis qu'on le méprise. En cela, Paul ressemblait à son maître. Les Corinthiens le méprisaient. Moi, oh, il est chez nous et qu'il parle, oh, c'est pas terrible. Mais quand il est éloigné, ses lettres sont sévères et fortes, il est lâche. De loin, il sait écrire, mais ici, ils n'étaient pas très sympathiques, ces chrétiens de Corinthe, quand même, pour l'homme de Dieu. Et on transpose toujours notre expérience sur l'écriture, malheureusement, mais quand on se convertit, on a l'impression que Paul, ça devait être quelqu'un qui en imposait. Paul, ça devait être un meneur. Mais en réalité, il était assez certainement doux. On ne peut pas être sûr de son caractère, on ne peut pas vraiment savoir. Mais en tout cas, il avait une attitude qui a fait que les Corinthiens l'ont méprisé. Jésus-Christ a été méprisé. Je réfléchissais, je méditais à ce message ce matin en mettant ma cravate. Et je me disais, je ne sais pas si le Seigneur Jésus mettrait une cravate. Alors c'est une petite réflexion de chrétien, c'est comme ça. Hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en mettre, hein, ce n'est pas le sujet. Hein. Non, non. Mais je dis, voilà, le Seigneur était simple. Je continuerai à en mettre, moi j'aime bien, voilà, c'est tout. Mais le Seigneur était simple. Son travail était simple. Ses richesses n'étaient pas très nombreuses. C'est un euphémisme que de le dire. Parce que vivre simplement, c'est aussi avoir un niveau de vie simple. Et là, nous les consommateurs, il y a peut-être du chemin à faire. Notre Seigneur était simple. C'est notre modèle. Amen. Avoir les regards sur Jésus. Gloire à Dieu. Quelque part, Dieu est simple aussi. On le lit dans Jacques chapitre 1er, verset 5. Jacques chapitre 1er, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Alors c'est qui ce Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. Amen. Vous ne trouvez pas que c'est magnifique? Des fois on trouve que c'est compliqué Dieu. Peut-être quelqu'un a du mal avec Dieu. Je me souviens autrefois, j'avais l'impression que Dieu était un très vieux grand-père, très très loin dans le ciel, sur un trône, et tout seul, avec une barbe jusque-là. Je le pensais vraiment, hein. C'est rigolo, c'est sûr, mais je le pensais vraiment, j'étais athée. Et pour moi, Dieu, oh ! Or, la parole de Dieu nous montre tout le contraire. C'est vrai que vous êtes sous la colère de Dieu à cause de vos péchés. Mais Jésus-Christ a donné sa vie sur la croix et c'est Dieu qui l'a envoyé parce qu'il vous aime. Afin que vous soyez sauvés par son sang. Et nous voyons ici que Dieu donne à tous simplement et sans faire de reproches. Alléluia. J'aime bien ce vieux cantique. Sans faire aucun reproche. C'est vrai. Nous, on fait des reproches. Nous, on dit, oui, tu me demandes pardon, mais quand même. Ah, tu vois bien que j'avais raison. Quand on prie Dieu et qu'on a eu tort, j'ai jamais entendu dire de la part de Dieu, t'as vu David, j'avais raison, hein, t'as pas écouté, bah tant pis pour toi. Ah non, nous, on fait ça. Parce que nous, on est mauvais, on est méchants, dit la Bible. Mais Dieu est bon. Alléluia. Ça veut dire qu'il est de bonne nature. Nous, nous sommes de mauvaise nature, mais Dieu est de bonne nature. Et quand on manque de sagesse et qu'on le réalise, c'est une façon de se repentir. Parce que des fois, on dit, la repentance, c'est un mot qui est des fois, on dit, alors pour se repentir, il faut petit a, pleurer, petit b, vraiment s'amender, petit 3, tout dire. Mais tout ça, c'est où tout ça? Se repentir, c'est en tant que chrétien aussi dire, Seigneur, franchement, j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai besoin de ta sagesse, j'en manque. Je t'en supplie, donne-moi de la sagesse. Eh bien, si le Seigneur voit qu'on réalise nos erreurs, qu'on réalise nos manques, ben il donne généreusement. C'est simple. Et sans faire de reproches. Des fois, on a peur de Dieu. Même nous, chrétiens. On dit, non, on est chrétiens, on est réconciliés. Oui, mais quand, par exemple, vous avez des mauvais moments et vous ne priez plus à la maison, parce que vous n'osez plus vous approcher de Dieu, ben je vais vous dire, c'est parce que vous avez peur de Dieu, même que vous êtes chrétien. Vous savez que vous êtes réconciliés, mais concrètement, dans la réalité du terrain, lorsque vous n'osez plus prier, c'est que vous avez peur de Dieu. C'est le réflexe d'Adam. Adam, Adam, t'es où Adam? Je ne le retrouve plus. C'était toujours facile, c'était toujours simple Adam. On se rencontrait toujours en Éden, mais là, t'es où? Je ne te trouve pas. Vous croyez que Dieu ne savait pas où était Adam? Vous croyez qu'en posant cette question, Dieu était ignorant? Non. Je me suis caché. Adam a eu peur de son créateur. Parfois, un chrétien a peur de son sauveur. N'ayons pas peur. Dieu donne à tous, sans reproche, généreusement. Ayons une relation avec Dieu simple. Je crois que Dieu est simple, tout en étant sage, infiniment profond. Mais passons, moins on a compris quelque chose, plus c'est compliqué de l'expliquer. Mais plus on a assimilé, plus on sait en parler avec évidence. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle est simple. Elle révèle des choses que nous ne comprenons pas, mais avec simplicité. Dieu est simple. Soyons simples. Amen. Dans notre approche de Dieu, qui donne sans faire de reproches. Et on termine avec 1 Jean, chapitre 5, versets 3 à 5, s'il vous plaît. 1 Jean, chapitre 5, verset 3. Car l'amour... Je vous attends un peu. 1 Jean, chapitre 5, verset 3. Alors, peut-être des fois, vous ne savez pas trop où ça se trouve. Tant mieux, les réunions, c'est fait aussi pour faire de la révision. De la révision biblique. Et peut-être aussi des fois vous dire, « Oh, ça fait longtemps que je n'ai pas lu ça. » Il faut relire la parole de Dieu à la maison. Amen. 1 Jean, chapitre 5, verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ce n'est pas compliqué. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Amen. Amen. Obéir à Dieu, c'est pas compliqué. Amen. Je savais qu'il n'y aurait pas eu beaucoup d'amen. Parce que peut-être ce n'est pas votre expérience. Et pourtant, l'Écriture dit, celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Et ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alors, attention, des fois, on comprend mal les passages sur la foi. On dit, oui, Seigneur, je veux être vainqueur par la foi. Et on pense qu'il faut avoir la foi, la foi, la foi, la foi. Ce texte nous dit que si nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu, nous sommes vainqueurs. La foi et l'autosuggestion, c'est très différent. Il y a une façon des fois dont les chrétiens, même pentecôtistes, envisagent la foi comme étant plus une méthode positive, une méthode couée, où on se persuade, il faut croire, il faut que je croie que le Seigneur peut me guérir, il faut que je croie, il faut que je croie, il faut que je... C'est pas ça la foi. La foi, c'est dans notre relation avec Dieu, de plus en plus comprendre l'œuvre de Jésus, de plus en plus réaliser ce qu'il a fait. Et plus nous croirons en lui, plus sa victoire s'établira dans tous les domaines de notre vie. Alors avec le péché, c'est compliqué quand on est dans le jeu. Ça c'est Romain. Malheur à moi, misérable que je suis. Je fais le mal que je ne veux pas. Et quand vous relisez ce passage, le pronom personnel, singulier, revient si souvent, je. Quand on est dans le jeu, quand on essaye soi-même de s'en sortir face au péché, mais regardez Caïn, il n'a pas réussi, on ne réussira pas non plus. Le péché tapis à ta porte, mais toi, domine-le. Mais il n'a pas su, nous ne saurons pas non plus. Nous ne sommes pas meilleurs que Caïn, je suis désolé, je ne prends peut-être pas un modèle réjouissant, mais on n'est pas meilleur que lui, on n'y arrivera pas. C'est pour cela que le Seigneur est venu. Et le seul moyen de triompher du péché, c'est de quitter le jeu pour aller vers le lui. Vivre en Jésus, croire en Jésus. Et là, ça devient beaucoup plus facile. Apprenez cela, bien-aimés. Actuellement, vous êtes peut-être dans le regret de certaines fautes. Présentez-les à Jésus. Seigneur, voilà ça, je ne m'en sors pas, je n'y arrive pas, mais je m'approche de toi. Parce que je crois vraiment que tu m'as pardonné, que tu m'as réconcilié. Que on ne s'approche pas du Seigneur que quand on le mérite, vous savez. Parce que quand est-ce qu'on le mérite? J'aimerais bien savoir quand. Ah, c'est une bonne réponse. Alors comme on ne le mérite jamais, approchons-nous sans mérite encore. Et demandons-lui grâce. Et simplement l'œuvre du Saint-Esprit se fera. Vivons nos luttes contre le péché avec simplicité, la simplicité de la foi. Si vous êtes trop compliqué, vous allez vous enfoncer. Amen. Et peut-être de ne pas faire de fixation. Parfois, on fait des fixations. À chaque fois qu'on prie, Seigneur, il faut que je sois délivré de ça. Seigneur, ne faites pas des fixations. Présentez ça au Seigneur et après, priez pour les autres, louez le Seigneur, priez pour ce que vous venez de lire à la maison. Ne vous focalisez pas sur le péché. Si vous vous focalisez sur le péché, ça va devenir difficile et compliqué. Focalisez-vous, même si c'est un mot-là inapproprié, sur Jésus-Christ. Avoir les regards sur lui. Amen. Alors, pour terminer, j'aurais aimé qu'on chante ensemble un chœur. Gérard, est-ce qu'il peut l'afficher? Et on pourrait prier après quelque temps. Seigneur, ce dont j'ai besoin. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, les musiciens ne le connaissaient pas. Mais il est facile, on va peut-être l'apprendre trois fois, parce qu'il correspondait bien. Quand j'ai fait le message, je me suis rappelé de ce chœur, et je vous propose qu'après ce chœur, ou ce petit cantique, je ne sais plus, on puisse, mais j'aimerais bien avoir le recueil J'aime 2 pour suivre moi, c'est possible? Ah non, mais si vous voulez, ouais, vous pouvez regarder, ok. Merci, voilà. Et je vous propose, c'est parfois bien d'avoir un moment de prière pour répondre à la parole du Seigneur. Après ce petit chœur ou cantique, on va avoir un petit moment de prière ensemble pour répondre au Seigneur et à sa parole. Amen.